le scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et parcourons ensemble les voies du scénarium.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
Ils conduisent les hobbits en mise en garde.
Je s'appelle Groot.
Il n'y avait qu'un moyen de sortir d'ici et vous l'avez coupé.
Peut-être que vous étiez mieux dans votre cellule.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Exterminate! Exterminate! Exterminate!
Nous sommes au bord d'un carrefour éruptif quadruple d'une libération d'énergie tellement formidable qu'elle en sera même dangereuse.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow, follow.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bah là, on joue là, c'est sérieux?
Et oui, on joue là, c'est sérieux sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans les voies du scénarium, l'émission qui, par le truchement des ondes aérophoniques, va propulser directement dans votre cerveau des images de jeux de rôle. Non, j'essaie d'innover. Non,
ouais, c'est cool.
Fallait pas. Bon. Ce soir, je suis en compagnie de Romain. Ça va, Romain?
Salut, super.
Bah, cool. On va passer une heure ensemble, hein, puisqu'on est avec vous, chers auditeurs. Vous pouvez, il n'y a pas de direct parce qu'on n'a pas grand-chose à vous montrer.
Attends, j'ai ramené plein de beaux trucs.
Plein de trucs. Hein. Mince, j'aurais dû faire un visuel. Mais il fallait monter les caméras.
J'ai voulu des clics.
C'est mieux pour la radio.
Ouais.
C'est mieux. Je sais pas quoi dire de plus là. C'est pas mal.
Il y aura un invité.
Oui, on aura un invité tout à l'heure. Ce sera Sébastien Célérin qui va nous parler de Brindlewood Bay. On va pas en parler tout de suite parce que du coup le but ce sera de pouvoir le découvrir. Mais c'est un jeu qui moi m'a hypé dès que j'ai vu la version anglaise et quand j'ai lu vu que ça allait être traduit en version française, et ben je me suis dit, ça a l'air super cool.
Je dirais même retraduit.
Retraduit.
On posera la question à Sébastien, mais il y avait une première version qui était sortie uniquement en PDF par Gulix.
Oh la vache.
Sans les visuels.
Sans les
jolis visuels que tu as aimés.
Eh ben oui, mais je les ai bien aimés moi. Les.
Sans les mamies.
Sans les petites mamies. Mmh.
On l'a testé.
Oui, on l'a testé. On
Grâce
a fait
toi.
Une petite partie la semaine dernière. On a fait un petit scénario, mais on en reparlera avec Sébastien tout à l'heure, puisque c'est lui qui sera capable de nous le présenter. Voilà. Toi, tu as deux petits livrets là aujourd'hui.
Ouais,
trois
je suis venu
petits
avec
livrets.
Trois trous de lapin.
Trois trous de lapin. Mmh. Ouais. Tu peux spécifier ce que tu appelles un trou de lapin?
C'est la collection Rabbit Hole que c'est sorti en boutique ce mois-ci, je crois. Ça avait été fou lancé dans l'année. Donc, une idée de Mathieu Saintoux d'Arcane Asylum et Sandy okay. Julien, traducteur aussi pour Arcane Asylum, qui voulait faire avoir un label de petit jeu de rôle, on va dire, par okay. le format, quoi. Et aussi par le prix, parce qu'ils coûtent tous entre 10 et 15 euros.
Ça va.
Et donc, il y en a 7 qui sont sortis, là, dans la première fournée. Je sais pas, s'ils comptent en faire tous les semestres ou quelque chose comme ça. Et j'en ai lu 3 parmi ces 7. Truc okay. qui est un peu le plus hypé.
Tu vas pouvoir nous en parler. Petite question quand même avant. Souvent, quand on utilise le terme rabbit hole, c'est un truc où si on a creusé un petit peu, on a trouvé quelque chose. Et plus on creuse, plus on se rend compte que c'est profond. Et ça parle souvent comme le terrier du lapin dans Alice au Pays des Merveilles. Est-ce que on a ça? Est-ce qu'on a l'impression d'avoir découvert un petit quelque chose et puis aller plus loin, plus profond encore?
Bah là, non, je sais pas trop.
Pas forcément.
Alors j'en ai joué un seul parmi les 3.
Ouais.
Moi j'imagine que c'est l'idée de se dire tiens bah voilà c'est des jeux de rôle qui font pour certains 30 pages mais qu'on peut peut-être passer de nombreuses heures rien qu'avec ces petits fascicules.
Ça me rappelle les petits formats qu'il y avait chez les 12 singes. Tu sais, c'était du clé en main.
Ouais, c'était déjà plus gros que ça.
C'était un petit peu plus dense que ça. Mais passe-moi un et puis raconte-moi des trucs dessus. Je t'écoute.
Bah, tiens, je t'en parle. C'est celui-là. Et
celui-là, il s'appelle The Job.
Bah, moi, j'ai commencé par Blurred Lines. Alors, Blurred Lines, j'en avais déjà parlé la dernière fois que je suis venu dans cette émission.
Ouais.
Parce que il y avait en même temps le fou lancement de, Lies by Omission, qui pour le coup est un jeu de rôle américain, mais sur le principe du giallo. Et Blurred Lines aussi.
Giallo, tu peux spécifier pour les gens qui ne connaissent pas.
Préciser, Giallo, film, je dirais thriller italien des années 70, souvent avec un tueur masqué, un peu fétichiste.
Ouais, et puis
un peu l'ancêtre du slasher ensuite chez les Américains dans les années 80, après Halloween. Tout ce qui
avec une dose d'érotisme poussée quand même, non?
Ça dépend.
Ok. Moi, j'avais cette idée
Ce sont peut-être souvent des jolies femmes qui se font assassiner, mais bon.
Ok. Je note.
Donc, moi, j'ai commencé par Blurred Lines. Je crois que tous les trous de lapin, les 7 trous de lapin qui sont sortis sont des traductions. Par contre, il me semble pas qu'il y ait de création originale pour les premiers volumes de cette série. Et un jeu de Guilherme Contigio qui raconte. Alors, ils appellent ça jeu de rôle solo. C'est pas faux, mais bon, l'histoire, en gros, c'est qu'il y a un tueur dans la ville. Alors, lui, il tue au hasard. Il tue pas que les jolies femmes. Et on joue avec une carte. Alors, on prend le bled qu'on veut. Et puis, on incarne un ou une photographe qui va aller sur les scènes de crime.
Ok.
Et on va être amené, en fait, pour savoir ce qui se passe dans les différents lieux qu'on va visiter sur notre carte. On peut en rajouter un peu au fur et à mesure. On va jouer avec un jeu de 50 cartes. Et en fait, les cartes vont nous emmener vers des lignes sur des tables qui vont nous raconter, qui vont nous dire en quelques lignes quel événement se déroule à cet endroit-là. Et on a aussi un D10, on a 3 compétences en fait, et il va falloir comparer le résultat de notre dé aussi aux 10 entrées qui sont sur les tables, et ça va nous permettre d'avoir soit un événement positif, soit un événement négatif en fait qui se produit à cette occurrence. Voilà. Et l'idée, c'est de faire des photos au fur et à mesure. Donc, les événements nous disent, en fait, si on prend des photos ou pas. Et quand on revient sur un endroit, en fait, on découvre de nouveaux détails dans la photo qu'on a prise à cet endroit. Et au fur et à mesure, on va faire monter notre jauge d'indices qui va nous mener vers le tueur. Attention, quand il nous arrive des trucs pas cool, là, c'est que le tueur, lui, se rapproche de nous. Donc okay. En gros, on a 2 jauges à gérer dans ce jeu. C'est un peu une chasse à l'homme dans les 2 sens. Et j'avoue, pour ma première partie, je me suis fait gauler par le tueur très rapidement. Puis après, je l'ai fait rejouer à quelqu'un qui s'en est très très bien sorti, qui a un peu plus compris en fait. Parce qu'en fait, plus vous allez au même endroit, plus vous risquez de faire des choses, apparaître des choses sur la photo. Et donc, il y a un tout petit peu, je dirais, de stratégie. Et donc lui a réussi à gagner la partie contre le tueur. Par contre, en fait, les indices qu'on récolte, c'est à nous, on va dire, à la fin de... Ouais, de comment je dirais, bah de relier en fait les différents indices et puis
d'éviter de se faire gauler.
Ouais, et donc c'est un peu nous qui bouchons un peu les trous là dans la narration en fait qui nous est donnée on va dire par toutes les entrées qui nous arrivent en gros quand on tire sur les tables quoi.
Oh, c'est cool.
Et cette personne m'a dit ce serait mieux d'y jouer à deux. Je dis bah, c'est écrit jeu de rôle solo. Moi je l'ai fait un peu en MJ et puis lui en joueur. Il m'a dit mais si on était deux photographes à courir sur les traces du tueur, ce serait peut-être plus cool. Donc on est en train de réfléchir en fait à transformer un peu ce jeu et le faire jouer à plusieurs personnes en même temps quoi.
Ok. Je veux essayer.
Plutôt que d'avoir une carte aussi avec des post-it, on réfléchit plutôt à avoir une carte et puis d'avoir des punaises et de se faire un genre de tableau un peu comme dans les récits criminels où
on marque les
différents endroits et ce qui s'y passe quoi. Voilà. Donc il y a plein de choses à faire à partir de ça.
Ok. Ouais, je parcourais le The Job en même temps. L'aspect graphique, il est très cool dedans, je trouve. Je sais pas si c'est la même chose dans tous.
Eh ben, c'est le même. t'as pioché. C'est aussi Guilherme Contigio qui a écrit et illustré Blurline. C'est aussi lui qui avait fait les illustrations de The Job. Par contre, The Job a été écrit par André Novoa. Et donc là, c'est un auteur portugais, je crois. Alors, The Job, c'est plus, je dirais, un outil pour faire des scénarios de braquage.
Du braquage à la Ocean Eleven.
Ouais, tout à fait. C'est une énorme référence complètement assumée.
Mais c'est trop bien.
Qui se joue cette fois avec aussi des... Là, les dés vont s'empiler et plus on va faire des choses un peu dangereuses, plus on va mettre des dés les uns sur les autres. Et forcément, quand la pile de dés se casse la goule, eh ben, il nous arrive des trucs pas cool.
Trop drôle. J'aime bien ce genre de concept. C'est cool. Enfin, une petite collection, voilà, du coup, qui coûte pas cher, qui permet de jouer des jeux visiblement faciles à prendre en main, même si, ce que tu disais, les innovations un peu tech.
Alors, The Job, là, je conseille d'être plusieurs parce qu'il faut monter une équipe et on a tous, évidemment, au début, chacun sa spécialité, quoi. On est vraiment un peu dans les clichés de chaque spécialiste dont on aura besoin pour réussir notre braquage.
Mais il va falloir qu'on joue à ça, hein. C'est des scénarios qui sont déjà existants ou
alors en fait les scénarios ils prennent un recto verso à la fin du livre, il y a quelques idées de scénarios. Alors le scénario c'est surtout un grand dessin. Alors on a quand même l'objet à récupérer, le lieu où ça va se passer, le budget. Alors le budget il y a un tableau au début où toutes les choses dont on peut avoir besoin dans un casse sont listées et elles valent toutes quelque chose. Donc c'est à nous en fait de monter de rentrer dans le budget qu'on a pour le braquage. Et puis, il y a 6 complications. Et alors, en fait, The Job, c'est quand même très, très scripté. En gros, il va y avoir une douzaine de chapitres. Et un chapitre sur deux, une des complications qui sont listées déjà au début va arriver. Alors, c'est des choses qu'on sait déjà avant de faire le braquage. Par exemple, il va y avoir des caméras de sécurité à tous les étages. Il y aura plein de spectateurs au match, des choses comme ça.
Oui, on
l'anticipe
quand même.
C'est des choses qu'on sait déjà. Oui, on anticipe parce que finalement, le jeu est prévu pour passer autant de temps à préparer le casse qu'à le réaliser.
Mais si on sait des choses, on prépare plutôt la phase finale du casse que la phase en amont, parce que c'est des infos qu'on pourrait avoir décidé d'aller chercher et les joueurs ne pourraient ne pas les connaître.
Ouais, mais là, ils sont donnés. Et en fait, ça fait partie du jeu de connaître ces complications avant de faire le casse et de s'organiser en fait pour on va dire les anticiper. Mais forcément il y a des trucs qui vont se passer, il va y avoir des événements, voilà, surtout quand la tour de dés va se casser la goule, il va y avoir des choses qui vont se passer pas comme prévu.
Ouais, j'aime bien ce concept, c'est bien très drôle. Tu le gardes pour la fin celui-là ?
Ouais.
Parce que sinon on va pas être dans le temps.
OK.
Et puis on en reparlera. Là, je vous ai un truc pas très jeu de rôle, mais une chanson que j'aime bien passer sur cette période-là, puisqu'elle a un peu de saison. Ça s'appelle Dropkick Murphys, c'est The Seasons Upon Us. C'est une chanson qui parle de Noël, mais à l'irlandaise. On se retrouve tout de suite après sur le 100.5 de Radio G.
it's that time of year. Brandy and eggnog, there's plenty of cheer. There's lights on the trees and there's wreaths to be hung. There's mischief and mayhem and songs to be sung. There's bells and there's holly, the kids are gung-ho. True love finds a kiss beneath fresh mistletoe. Some families are messed up while others are fine. If you think yours is crazy, well, you should see mine. See snowballs. I'd like to take them out back and deck more than the halls. With family like this, I would have to confess I'd be better off lonely, distraught and depressed. The season's upon us, it's that time of year. Brandy and eggnog, there's plenty of cheer. There's lights on the trees and there's wreaths to be hung. There's mischief and old sod drinks whiskey alone with my miserable dog, who won't run off at cherry, couldn't care less. He defiled my teddy bear and left me the mess. The season's upon us, it's that time of year. Brandy and eggnog, there's plenty of cheer. There's lights on the trees and there's wreaths to be hung. There's mischief and mayhem and songs to be sung.
Allez, on est de retour sur le 101.5 de Radio G. Vous êtes toujours à l'écoute des voix du Scénarium. Et on n'est pas tout seul puisqu'on est rejoint par Sébastien Célérin et on va parler ensemble de Brindlewood Bay. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir tout le monde.
Hop.
Bonsoir.
Alors, je suis Sébastien. Entre Sébastien, ça va bien se passer, forcément. Et
oui.
Je suis en compagnie de Romain qui va pouvoir aussi intervenir, puisque on a joué ensemble à Brindlewood Bay il y a pas très longtemps.
Ok.
Une semaine.
Oui, il y a une petite semaine. Est-ce que tu pourrais commencer, toi, Sébastien, à te présenter ? Qui es-tu et quel est un peu ton impact dans le jeu de rôle ? Parce qu'il y a un CV qui est quand même assez conséquent, si je me trompe pas.
Wow, c'est à moi de parler d'impact. Alors je m'appelle Sébastien Célérin, j'écris et je publie des jeux, et plus particulièrement des jeux de rôle, depuis maintenant 26 ans. J'ai commencé ma carrière dans une société qui s'appelait Multisim, qui était jumelée à l'industrie du jeu vidéo. C'est une société qui a publié Nephilim, dont j'ai dirigé la gamme à partir de la troisième édition. Et notamment Agon, qui a été un jeu d'heroic fantasy qui a marqué les esprits en 1999. Ensuite, j'ai travaillé pour une entreprise qui produisait des jeux d'escarmouche avec figurines, qui s'appelle Rackham, pour lesquels j'ai réorganisé un peu ce qu'on appelait à l'époque les studios aventures, les équipes de game designers. Et on a publié une adaptation jeu de rôle de leur univers qui s'appelait Catvalon. J'ai ensuite été l'éditeur de la quatrième édition de Donjons et Dragons pour la France. Et puis, pendant plusieurs années, j'ai été un des éditeurs des 12 singes. Et aujourd'hui, je dirige une société qui a plusieurs labels d'édition de jeux qui sont, des jeux initiés et plus spécialement dans la fiction et la narration, vu qu'il s'agit de For the Story. Et tout récemment, Arcanval, et puis maintenant Brindlewood Bay.
Ouais, c'est bien, impressionnant quand même. Je suis un peu intimidé.
Faut pas.
Non, je sais qu'il faut pas, mais il n'empêche qu'il y a que des grands noms, il y a que des noms qui résonnent, que ce soit Nephilim, que ce soit Agon, que ce soit Donjon Dragon. Dans ce CV, c'est impressionnant. Aujourd'hui, on va parler de Brindlewood Bay, puisque ça a été l'actu, ça a été financé sur Gaemon. On pourra en reparler aussi de ce financement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire la traduction de Brindlewood Bay?
Ah, bah en fait, déjà, c'est une proximité dans l'approche de création avec son auteur, Jason Cordova, qui est un auteur américain, qui considère que tout se teste et qui passe son temps à tester, retester, retester. Quand je dis il passe son temps, c'est parce qu'en fait il le fait en public, en direct, via les médias sociaux vidéo d'aujourd'hui, et il est à la tête d'une très très grosse communauté de fans qui sont aussi devenus des co-créateurs qui s'appellent Gauntlet. Et c'est quelqu'un qui a réfléchi beaucoup à comment rendre le jeu de rôle plus accessible, comment l'animer plus facilement et surtout comment réduire le temps de préparation, et qui s'inscrit dans une série de jeux qui ont été initiés par un jeu de rôle qui s'appelle Apocalypse World, qui a formalisé le fait que le jeu de rôle ne sera jamais aussi passionnant que si l'animateur est fan de tout ce que lui proposent les autres joueurs. Voilà, donc après, en suivant cette personne et sa création, et puis les gens qui l'agrègent autour de lui, j'ai eu envie de publier ces jeux, et je l'ai contacté, et puis d'autres créateurs que je suis, hein. Et puis il a fini par répondre favorablement, un peu étonné au départ, parce que très conscient que qu'elle marché francophone est loin d'avoir l'audience de ce que lui peut connaître en langue anglaise, mais en lui parlant du dynamisme de la création et de qu'il y a en France autour du jeu de rôle, et qu'il n'a jamais faibli, même dans les périodes où le jeu de rôle anglo-saxon se portait pas très bien, il m'a fait confiance, et puis écoute, il n'a pas le regretté, on dirait. Hein.
Oui, j'ai l'impression, ouais, parce que c'est... Il y a eu 430 souscripteurs sur le financement Gaemon, ce qui est un beau score. Hein.
Aujourd'hui, je pense, pour de la création vraiment indépendante, c'est-à-dire qui n'est pas portée par une très grosse édition très installée, ou qui n'est pas l'ultime réédition d'un grand classique, c'est assez remarquable.
Romain, tout à l'heure, me soulignait que c'était peut-être une retraduction, parce qu'il y avait déjà eu quelque chose proposé par Gulix avant.
Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que dans la mouvance dite des créateurs indépendants américains, il y a un usage qui s'est développé, qui est de publier ce que les Américains appellent un ashcan. C'est grosso modo un cendrier, si on traduit littéralement.
Okay.
Il y a cette idée que, en fait, après une ou deux premières parties entre potes, on couche les règles sur du papier, on fait une version qui n'est même pas alpha, tu vois, qui est une espèce de proto, on le met en ligne. On convoque une communauté en disant écoutez, on a fait ça, on s'est bien amusé, qu'est-ce que vous en pensez? Et à ce moment-là, en fait, cette version-là, elle est libre de traduction dans le cadre du Creative Commons. Okay. Et effectivement, Gulix a participé à cette aventure, et c'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai découvert le travail de Jason Cordova. Et après, cette version-là, elle a eu de nombreuses itérations, notamment au sein de la communauté digitale du Gauntlet. Et puis, Jason a fini par faire un Kickstarter pour refaire l'ultime édition, si on peut dire. Et puis, il a convié toutes les personnes, en fait, qui avaient produit du contenu autour de son système de jeu et de son game design, ouais. Et il en a fait des recueils d'intrigues écrits par la communauté. Et en fait, nous, l'accord qu'on a avec Jason, c'est que on publie donc à l'identique cette édition définitive, plus le recueil complémentaire qui est arrivé depuis. À l'initiative de cette communauté.
Le 9/15, c'est ça?
Ouais, et on a donc la possibilité, en fait, de faire un développement Made in France. Et donc, au sein de l'opération de précommande participative, on a atteint un nombre de clics et une masse financière qui nous a permis de reproduire l'expérience. C'est-à-dire que à mes côtés, en fait, derrière Brindlewood Bay, il y a un auteur français de For the Story qui s'appelle Nicolas Levif, qui lui aussi a une communauté de création, de passionnés de fiction, et qui s'appelle La Fabrique Imaginaire. Et ben voilà, on a monté cette précommande ensemble, il l'a animée tout du long, il a permis à des membres de son Discord, La Fabrique Imaginaire, de participer à ce supplément Made in France, qui sera donc la troisième publication, si je puis dire, officielle, sur Brindlewood Bay, qui est en train d'être illustré en ce moment.
Ok. Ce supplément, ce sera un supplément Made in France ou ce sera une localisation française de l'histoire?
Alors, ben, en fait, donc les deux premiers bouquins sont américains et sont localisés en français, mais le troisième ouvrage dont je vous parle, qui va s'appeler Voyage en France, est bien un compendium de compléments de règles et de scénarios inédits par des autrices et des auteurs français, francophones.
Et qui se dérouleront en France, du coup?
Exactement. Donc, dans Brindlewood Bay, vous jouez des femmes âgées qui ont perdu leur époux et qui passent le temps en partageant leur passion pour une autrice de polar, dont elles sont fans de la saga, au sein d'un club de lecture. Et il se trouve que dans la ville où elles habitent, Brindlewood Bay, les autorités sont un peu désarmées face à une série de crimes qui va commencer à frapper la ville. Chaque crime est fait l'objet d'une partie, d'un scénario, si je puis dire. Et en fait, nous, on va proposer à ces maîtresses du crime, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, de rejoindre un petit voyage collectif. Elles vont venir en France parce que voilà, on révèle que l'autrice a écrit aussi des tomes se déroulant en France. Et à la grande surprise des maîtresses du crime, eh bien, le fil rouge qui lie tous ces crimes de Brindlewood Bay trouve un écho en France et peut-être des indices. Pour comprendre qu'est-ce qui se trame, parce que il y a deux façons de jouer à Brindlewood Bay. On peut jouer une partie comme ça pour se détendre sans lendemain, et on peut jouer aussi dans un enchaînement de plusieurs scénarios, ce qu'on a tendance à appeler un mode campagne. Et dans ce cas-là, en fait, nos maladresses, les choses qu'on a laissées de côté dans les intrigues, l'animateur va pouvoir s'en saisir pour nourrir un arc narratif transversal à toutes ces intrigues qu'on appelle l'obscur complot.
Parfait. C'est un postulat de jeu qui est assez énorme parce qu'il y a plein de choses à faire. On peut jouer simplement des petites parties solo si on a envie et on peut s'inscrire dans cet obscur complot qui est une sorte de grande fil rouge avec un final apocalyptique, si je peux me permettre d'avancer ça.
Ouais. Mais en fait, surtout, ce qui distingue Brindlewood Bay de beaucoup d'autres jeux de rôle d'enquête, c'est qu'en fait, l'enquête n'est pas écrite au préalable. C'est-à-dire que l'animateur, il a une situation initiale, une galerie de personnages, des indices thématiques qui sont liés aux personnages et aux lieux, et au fur et à mesure que la partie va se dérouler, les règles vont permettre aux joueurs de prendre le pouvoir sur la narration et d'imposer à l'animateur des vérités sur l'intrigue, en fait. Et donc, finalement, c'est les joueurs qui vont construire l'intrigue, ils vont formaliser une hypothèse, comme le font n'importe quel enquêteur au cours de n'importe quel scénario de jeu de rôle, puis même, j'ai envie de dire, d'enquête ou n'importe quel média. Mais à cette différence, c'est que là, en fait, il n'y a pas un puzzle à reconstituer, il n'y a pas un assassin préétabli à démasquer. On part du principe que si les joueurs ont des arguments et qu'ils ont mis suffisamment de chance de leur côté, un jet de dés va leur donner raison à la fin, ou au contraire, tort. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que les éléments qui vont être laissés de côté, le meneur de jeu peut s'en saisir pour construire son obscur complot. Et donc du coup, au début, quand on joue pour les premières fois, on veut mettre toutes les chances de son côté, parce qu'évidemment, on veut triompher, et puis on veut avoir raison, on prend plaisir à imposer à l'animateur sa déduction, ce qu'on a assemblé entre les indices récoltés et puis les scènes de conversation qu'on a eues avec les personnages proposés par l'animateur. Et puis, petit à petit, on s'aperçoit qu'en fait, si on joue trop bien, le meneur de jeu, il est désarmé et il n'a pas les moyens, en fait, de nourrir son obscur complot et puis de cogner très fort. Et donc, les méchants ne se dévoileront jamais. Et donc, petit à petit, les joueurs vont aussi prendre le biais de se dire, bon, ok, mais il faut peut-être que des fois, on accepte de faire des bêtises ou d'avoir des hypothèses un peu farfelues pour qu'on échoue et que l'animateur puisse se saisir de ce matériel qu'on a maltraité, quoi. Et voyons voir ce qu'il va en faire. Oui, et donc, on a un vrai dialogue créatif, indépendamment du fait qu'on interprète des personnages et qu'on raconte une histoire.
C'est souvent évoqué dans le livre, c'est vraiment cet acte de co-création du scénario. C'est pas le MJ qui va dire vous allez aller dans telle direction et qui va imposer des scènes. Il y a des choses qui vont se faire. Quand une hypothèse est formulée, elle peut être fausse et ça peut être l'occasion de trucider un des protagonistes qui était suspect.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, la particularité de tous ces jeux hérités d'Apocalypse World, qui s'intéressent vraiment à la fiction de manière co-construite, c'est vraiment, ce sont pas des. Enfin, j'ai coutume de dire, dans beaucoup de jeux de rôle traditionnels, vous allez annoncer une action pour les quelques secondes qui viennent. Et le GD va nous dire si vous réussissez ou pas. Et on va résoudre un peu de manière très séquencée. Dans les jeux hérités d'Apocalypse World, comme c'est le cas de Brindlewood Bay, en fait, vous allez déclarer votre intention pour la scène à venir. Et le GD va vous dire, non pas si vous réussissez ou si vous échouez, mais quel degré de liberté vous avez pour raconter la façon dont ça s'est déroulé. Plus vous réussissez avec brio et plus vous avez de contrôle et de pouvoir sur la création et de moyens d'imposer les choses à l'animateur, et à l'inverse, bah, si votre résultat est faible, vous avez ce qu'on pourrait appeler un raté, c'est-à-dire que ça ne va pas se passer comme vous l'espériez, et à ce moment-là, l'animateur, lui, il a un certain nombre de prérogatives qui sont déverrouillées et dont il peut se servir, et notamment bah, le fait de s'en prendre à vos personnages, d'articuler les méchants, ou de corser l'intrigue, ou de remettre en cause des vérités que vous aviez pourtant manifestées comme étant acquises.
Il y a même certaines possibilités d'action où le joueur va proposer des conditions d'échec.
Exactement. C'est pour ça que je parle vraiment de liberté créative. C'est-à-dire que la règle nous dit, bah écoutez, voilà, compte tenu de la nature de l'action et de la résultat de votre jet de dés, je vous laisse prendre tel type de décision où je vous impose de choisir parmi des options qui sont déjà cadrées parce qu'en fait, ces options, elles codifient le genre fictionnel dans lequel nous jouons. Donc là, en l'occurrence, on part du principe que vous êtes des femmes âgées en deuil, donc fragilisées, donc vulnérables, mais vous êtes aussi des amatrices de polar avec une certaine acuité. Donc, toutes les règles qui sont là sont faites pour qu'elles découvrent des indices, qu'elles percent les mystères, mais qu'aussi elles soient connectées au surnaturel, à l'au-delà, et que ça va se révéler à elles au fur et à mesure de la partie.
Et il y a même une possibilité pour le maître de jeu, l'animateur, de trucider violemment une de ces enquêtrices et que l'enquêtrice dise « Non, en fait, je ne suis pas morte. »
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi des règles de jeu qui permettent de se donner la réplique, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des systèmes de jeu qui nous disent qui a raison et qui a tort. On est dans un dispositif qui nous dit qu'est-ce qu'on s'autorise de faire, comment on se donne la réplique au service du genre de la fiction. Donc, quand Moriarty pousse Sherlock Holmes dans les chutes, on croit qu'il est mort, mais en fait non, il reviendra. On est dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est pas de triompher de l'intrigue ou de donner une leçon aux joueurs, c'est d'avoir construit une fiction cohérente, pas forcément au sens où elle est vraisemblable, mais au sens où elle satisfait les règles du genre littéraire ou audiovisuel auquel elle se réfère.
Le but est clairement de raconter une histoire. C'est ce qui est noté plutôt vers la fin de l'ouvrage, quand il y a un appendice qui demande si c'est difficile d'incarner pour tel ou tel type de personne une personne âgée. On n'incarne pas, on raconte l'histoire de ce personnage.
C'est ça. Alors, de toute façon, la relation d'incarnation à son personnage dans un jeu de rôle, elle est fonction des personnes. Mmh. Il y a des gens qui sont très à l'aise pour parler à la première personne comme s'ils étaient leur personnage, d'autres qui préfèrent avoir une distance et décrire tout à la troisième personne, d'autres qui n'interprètent et qui ne décrivent pas et qui sont plutôt des joueurs intéressés par l'action ou par les aspects mécaniques de certains jeux, notamment particulièrement tactiques. Donc là-dessus, il n'y a pas de règle. Disons que je pense que la vraie différence, c'est que là, vous êtes en capacité de dire à l'animateur, au meneur de jeu, bah non, en fait, tu vois, moi je pense que il faudrait que l'intrigue prenne ce biais-là, parce que indépendamment de nos personnages et des conversations qu'on a avec les autres personnages de la fiction que tu nous proposes, regarde, on est plutôt, je pense que pour le canon esthétique dans lequel on s'inscrit, ça serait pas mal qu'on aille dans cette direction. Et il y a une discussion collégiale. Moi, je dis souvent, en fait, ces jeux-là, c'est un peu l'école des showrunners, quoi. C'est-à-dire que, ouais, t'es l'auteur de ton personnage, mais t'es aussi l'auteur de tout ce qui arrive à l'ensemble de la table.
Oui, et puis chacun va être garant de la cohérence globale. Si on voit un autre joueur qui fait un truc, qui dit, bah non, ça c'est pas bon, ça rentre aussi en ligne de compte, quoi.
Ah ouais. Et vraiment, quand on parle de cohérence, encore une fois, c'est pas forcément l'aspect vraisemblable des choses, parce qu'on n'est pas forcément dans une simulation qui se veut réaliste. On est garant du canon esthétique et du plaisir de jouer ensemble. C'est-à-dire que l'argument qui dirait, parce qu'on pourrait considérer que par exemple dans ces jeux on a trop de pouvoir ou que ça va trop loin, d'ailleurs qui peut d'ailleurs être mal à l'aise, peut-être certains animateurs qui n'ont pas trop l'habitude, mais en fait, il faut vous dire que le juge de paix, c'est ça, c'est... Mais franchement, c'est crédible pour ce type de fiction qu'on a déjà vu en série télé ou en bouquin, et est-ce que ça nous plaît? Si ça nous plaît, on y va, tu vois, on verra bien. Et puis, on est vraiment dans la collégialité tout le temps, c'est-à-dire parce qu'il faut beaucoup improviser et rebondir, mais on n'est pas là pour se donner des défis, on est là pour trouver ensemble les solutions, pour co-raconter.
Co-raconter, alors tu l'évoquais tout à l'heure, Cordova veut faire des jeux qui sont accessibles même à des débutants, alors ça se retrouve quasiment tout au long de l'ouvrage, notamment avec le déroulé de la première partie par exemple, qui est quasiment fait clé par clé avec des blocs de texte qui peuvent être lus tels quels. J'ai perdu ma question.
Pour te répondre là-dessus, c'est vrai que il y a beaucoup de jeux de rôle qui ont été écrits en ayant beaucoup de textes à lire aux joueurs, mais scénario par scénario. Mmh. Et en fait, le constat de Jason, c'est de dire, ouais, enfin déjà, je vais vous écrire quoi leur dire la première fois que vous serez amené à jouer à mon jeu, en partant du principe qu'ils n'ont pas déjà peut-être fait des jeux de rôle auparavant. Parce que si déjà ça c'est bien fait, et que alors que moi je l'ai écrit, toi tu l'as lu, tu vas le transmettre, si déjà j'ai produit un texte qui fait que entre moi et le dernier des utilisateurs, on parle la même langue, on s'est bien donné toutes les infos, bah a priori, tout le reste va bien se passer, quoi.
Et en vrai, ça se passe très très bien. Moi, je me suis juste posé la question, est-ce que, parce qu'il y a une mécanique qui est plutôt souple, les gens qui ne sont pas dans le discours, dans la théâtralisation, dans l'improvisation, vont facilement s'y retrouver?
Alors c'est marrant parce que ça c'est la question que toute personne qui connaît bien le jeu de rôle me pose. Okay. Écoute, moi en fait, avant de faire de m'intéresser à ces jeux-là, puis d'en publier un autre, parce qu'auparavant j'ai publié Noblesse Oblige, il y a eu une époque où j'ai travaillé chez Bragelonne dans le développement de jeux, et j'avais l'occasion d'aller sur des salons très différents, salons de jeux de société très grand public, salons littéraires, et on expérimentait ces jeux-là, et avant tout en prenant à partie des personnes qui ne connaissaient pas le jeu de rôle. C'est ce qui nous intéressait en fait. Et ce qu'on a vu, c'est que les gens qui ne connaissent pas du tout le jeu de rôle, eux, ça coule tout seul parce qu'ils n'ont pas d'habitude à déconstruire en fait. Ils ne sont pas habitués à avoir un animateur qui est tout puissant. Ils ne sont pas habitués à avoir un scénario pré-écrit qui attend finalement d'eux les bonnes décisions. Ils ne sont pas habitués à devoir réunir les pièces d'un puzzle. On leur dit, bah, écoutez, c'est l'imagination au pouvoir, vous êtes cette personne, lâchez-vous, vous allez voir, ça va bien se passer. Et ça va tout seul, quoi.
Effectivement, ça roule tout seul.
Moi, j'ai quand même une question à ce propos. Les références de Brindle B, c'est quand même arabesque, l'amour du risque. On a vu l'autre jour, c'est quoi, l'homme qui tombe à pic.
Oui, est-ce que c'est, pas, série
est-ce
ancienne,
que c'est
ouais.
pas un peu rétro, tout ça?
Ouais, il y a un côté rétro. Alors, j'en ai pas parlé avec Jason, donc je vais m'avancer un petit peu. Je pense qu'il y a un côté, il y a une génération d'auteurs qui a connu ça dans son enfance et qui a une certaine tendresse pour ça. Et après, je pense qu'il y a une habileté de création. C'est que, en fait, ça se passe de nos jours et on joue des femmes âgées. Et finalement, bah, c'est leur univers fictionnel à elles, en fait. C'est-à-dire qu'avant de devenir d'être à la retraite et d'être membre de ce club de lecture, qu'est-ce qu'elles ont regardé à la télé? Qu'est-ce qu'elles ont suivi? De quelle fiction elles ont été nourries? Et donc il y a la volonté de se lier à ça. C'est pas une idée qu'il a eue seul, parce que force est de constater que dans la littérature de genre, notamment dans les polars à destination de public féminin, depuis quelques années, on a vu arriver ce qu'on appelle le cozy murder. C'est-à-dire ces histoires de personnes qui ont une vie tranquille, souvent un peu âgées, et qui démêlent des intrigues au coin de la rue, quoi. Et ça connaît un très fort engouement et succès de librairie assez important. Et puis, il y a eu des revisitations. C'est-à-dire que, par exemple, on a des cozy murders où les sœurs Brontë mènent des enquêtes. Donc, il y a en ce moment, dans la littérature, et maintenant dans l'audiovisuel, parce qu'on voit que des séries télé ou des films commencent à emprunter des manuscrits à ce genre pour les adapter, qu'il y a quelque chose dans l'air du temps, en fait, qui s'est développé. Alors, je sais pas qui est bien malin, celui qui peut dire pourquoi, comment. Je pense que la vérité, c'est que on a grandi avec ça, et puis on a une tendresse pour nos grands-mères, et puis ça permet de jouer autre chose avec un peu de distance. Moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup parce que je suis amené à intervenir dans des écoles de design, pas seulement de game de design, mais vraiment de design au sens large. Et donc, j'ai des étudiants qui ont une vingtaine d'années. Et eux, en fait, quand tu leur parles de jeux de rôle, ils te disent, vos trucs là, où c'est que des histoires de baston, où on build des persos, où on balance des sorts, tu vois, il y a le jeu vidéo pour ça, quoi. Donc là, tu me dis, le média, c'est la parole, on est autour d'une table, on est entre potes, on va se mettre dans les canapés, et tu vois, à quoi on peut jouer, quoi? Comment on peut s'évader? Et du coup, les sujets, c'est pas ceux de Donjons et Dragons ou Warhammer, tu vois.
Ouais, complètement. Mais c'est vrai que c'est des sujets qui reviennent. Du coup, je travaille en librairie, donc effectivement, les cozy murders, je les vois bien passer. Ça, y a pas de souci. Même en série télé, on peut évoquer, je sais pas, Only Murder in the Building, qui est un grand succès et qui est complètement dans cette mouvance-là. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, ça peut faire des super scénars pour Brindlewood Bay. Je pense que ça marche très très bien. Non, mais il y a tellement de choses à faire et à dire sur ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Je voulais parler un petit peu aussi de la forme. Si on reprend l'ouvrage tel quel aujourd'hui, il n'y a pas d'ajout, en fait, dans le livre de base, hormis le supplément Voyage en France.
Non, dans l'édition contre-traduit, les deux bouquins, ils seront fidèles à l'édition américaine. Les ajouts qu'on va faire, c'est que dans les matériels de jeu en téléchargement gratuit, il y a des choses qu'on va redesigner parce qu'on a trippé, et puis on va faire une feuille de personnages alternatives, on va faire des petites dates de jeu comme ça. La Fabrique Imaginaire, je sais que certains d'entre eux produisent régulièrement du contenu, ils le mettent en ligne sur leur page issue, peut-être qu'on le mettra sur le site du label. Après je pense que la magie du jeu de rôle, c'est que de toute façon, une communauté va s'en emparer, et va développer, et ils vont partager leurs idées, leurs créations, ils vont jouer ensemble, les scénarios vont s'enrichir, et puis la dynamique va se prolonger, hein. Ça a pris aux États-Unis, ça commence à prendre chez nous. Je vous cache pas que quand on a lancé ça, on y croyait très fort, parce qu'on s'est beaucoup amusé à y jouer en anglais, mais on se disait quand même, peut-être que par les plateformes où sont proposés ces jeux aujourd'hui, où il y a plutôt des jeux, comme je le décriais des jeunes que je côtoie, on se disait peut-être qu'il ne sera pas vu ou pas compris. Et on s'attendait à faire une centaine de clics, quoi.
Okay.
Donc, quand on a vu qu'on avait fait une centaine de clics, et puis que ça continuait de monter, on s'est dit, ok, on s'est gouré. On a atteint 200, on s'est dit, ouais, on s'est bien gouré. Et puis là, on a commencé à nous dire, ouais, est-ce qu'il y aura un lead pledge, machin. On s'est dit, enfin, un lead pledge, mais nous, on n'était pas partis dans une logique d'escalade. Ce qu'on voulait faire, c'était proposer un supplément français parce qu'on voulait aussi montrer qu'on avait une sensibilité artistique, graphique, d'illustration différente des Américains, tout en restant dans le respect du cozy murder. Et donc, on voulait bien faire les choses. Donc, on a laissé courir. On s'est dit, on ne fait pas de lead pledge parce que pourquoi on ferait une œuvre dégradée alors qu'en fait, ça se passe au-delà de nos espérances. On a prolongé. En général, on prolonge quand ça se passe mal. Bon, nous, on a prolongé parce que ça se passait bien. Et puis du coup, ça nous a permis de travailler avec une illustratrice talentueuse qui est Laetitia Van Gass, qui avait fait avec moi sur la route du même Nicolas Levif. Alors que c'était pas gagné, parce que vous imaginez bien que les illustrateurs du jeu de société sont un niveau de qualité et donc de rémunération qui est supérieur à ce qu'on voit dans beaucoup de jeux de rôle de création indépendante. Mmh. Donc ça nous a permis de travailler avec elle, et puis bah là on est à 400 et quelques, et il n'y a pas une semaine qui passe sans que je reçoive pas au moins un mail, si c'est pas deux ou trois, de gens qui me disent ah, j'ai raté la précommande, est-ce qu'il y en a en magasin? Et vous, je dis bah écoutez, donnez-moi vos coordonnées, et puis quand on a le stock, on vous dira. Donc du coup, bah, in extremis, on a monté un peu le tirage, et puis on va bien voir quoi. Parce que tout le monde nous en parle. Puis bah votre démarche, elle en atteste quoi. Je n'ai de cesse de. C'est pas compliqué. J'ai l'impression d'avoir fait que ça dans ma vie, boîte de bouts de bête, où on ne me parle que de ça.
C'est vrai qu'on en a assez peu parlé. Il y a une patte graphique, alors qui du coup n'existe pas en version US. Hein. On est d'accord.
Alors bah si, parce que les bouquins finaux qui ont été faits sur Kickstarter.
Ouais.
Ils sont comme vous les découvrez, c'est la précommande en fait.
Ok, avec le.
Donc,
le
c'est une illustratrice italienne, c'est vraiment elle est bonne en l'occurrence pour les bouquins américains qu'on traduit, et qui a son actif des couvertures de Cozy Murder un peu partout.
Ah, donc la boucle est bouclée complètement.
Ouais, mais de toute façon, John Cordova, il a vraiment une démarche de designer, c'est-à-dire que c'est pas seulement il fait des systèmes de résolution qui servent un propos. Où il questionne le dispositif de la conversation jeu-rôle, c'est il va au bout des choses. C'est-à-dire, il dit, voilà, il y a un canon esthétique, on va aller jusqu'au bout des choses. On va aller prendre des illustrateurs qui sont reconnus pour être dans ce genre-là, et puis on va aussi questionner les limites du genre. Il y a une chose qu'il explique dans le bouquin que je trouve assez intéressante, c'est dans sa première liste de capacités spéciales, des maîtresses du crime, c'est incarné essentiellement par des personnages de fiction masculin, oui. Ce qui explique que bah, dans beaucoup de fictions, les femmes sont objets, et bah, là c'est l'inverse en fait. On joue des femmes, c'est les hommes qui sont objets, qui sont les choses qu'elles manipulent en fait. Donc voilà, ils essaient de faire le tour du sujet, et ils ont posé aussi les contradictions, les choses qui peuvent décevoir, et nous emmener bah, jusqu'au bout de la réflexion sur le sujet.
C'est rigolo parce que c'est un des points que j'allais relever hein, quand tu parlais du fait que Jason Cordova fait du game design. Il a aussi créé l'ouvrage avec une continuité. Quand j'ai lu l'ouvrage, on joue des femmes. Ah, tous les traits secondaires sont des hommes. Je me suis dit, ah, c'est dommage quand même. Et gentiment, le temps que la réflexion se fasse, on finit par nous l'expliquer dans l'ouvrage. Donc on nous laisse nous poser des questions. Et on va nous laisser nous les répondre. Et je pense que le jeu fait la même chose, en fait. On va pouvoir se poser des questions.
Fait, parce qu'en fait, il y a un travail de structuration éditoriale qui fait que c'est un livre de règles, mais je crois que si tu repenses à la façon du fait qu'il y a eu un Ashkan, que ça a été proposé à une communauté, qui a joué, qui a proposé les enrichissements, il a reformaté, il a fait une première édition, une communauté a continué à jouer, ça a gonflé. Il y a eu des ajouts. Il s'est dit, OK, maintenant je fais un Kickstarter, je fais deux bouquins, et puis je les mets à disposition. On verra bien. Ben, en fait, je pense que les livres, ils se sont construits comme ça. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas dit, tiens, je fais une deuxième édition ou une troisième édition pour mon Kickstarter. Non, il l'a augmenté et a essayé de respecter comment aussi la création s'est construite. C'est-à-dire qu'au départ, voilà, il a une idée, il y a quelques caracs, et puis il y a deux, trois règles principales. Et petit à petit, ont émergé les aptitudes à travers ces personnages de fiction référents. Et puis, il y a des gens qui ont dit « Ah ouais, mais tu vois, c'est dommage, on pourrait y en avoir d'autres. Ah ouais, mais ça peut être aussi des femmes. Ok, je vais faire une deuxième liste, mais je vous dis, c'est l'alternative. C'est pas ce à quoi moi j'ai joué au départ. » Et puis après, il dit « Ah, il y a des gens qui ont commencé, il y a eu des débats critiques dans sa communauté. » Il y a répondu. Et en fait, dans beaucoup de réponses qu'il a apportées, que ce soit sur son Discord ou sur des podcasts qu'il a enregistré à l'occasion d'échanges avec le public, et ben en fait, il en a extrait les articles, il les a réorganisés, et finalement, quand tu lis le bouquin, à la fois, tu appréhendes le jeu, mais tu appréhendes aussi comment le jeu s'est construit, en fait.
Et à le voir comme ça, effectivement, c'est nettement plus clair.
Et je pense que ce qu'il dit dans les dernières pages, qui est une espèce de post-face où il revient sur deux, trois choses, c'est intéressant, c'est il en parle à la première personne. Il dit, ah, on m'a souvent objecté que, ou on m'a dit que, ok, moi je vais vous dire ce que j'en pense en fait. Il n'y a pas beaucoup de jeux de rôle qui sont écrits comme ça, où l'auteur te dit, en fait c'est moi qui te parle, tu vois, donc c'est je. Et en fait, on m'a dit que, ben, moi je te réponds.
Oui, limite c'est la FAQ de fin de bouquin.
Oui, et puis il est dans cette démarche-là depuis le départ. C'est-à-dire qu'il dit, je fais un truc, je vous le donne, vous me raconterez comment vous jouez. Ah ok, vous jouez comme ça. Attends, moi je vais me mettre à jouer comme vous me dites. Ok, ah attends, finalement mon jeu il est mieux que je croyais. on recommence. Tu vois, par itération successive, ça, voilà, il est dans cette démarche-là. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est l'école Apocalypse World, c'est... Il y a beaucoup de gens qui pensent, ah oui, ils ont inventé, parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur qu'est-ce qui est l'essence même. Je crois que c'est l'autrice, enfin, c'est un couple, elle avait dit dans une conférence, non mais ok, je comprends qu'il y a plein de choses qui vous ont séduit et tout, mais je crois que la vraie chose qu'on a apportée au jeu de rôle, c'est qu'on a dit, dans le chapitre de l'animateur, le premier article, c'est, on vous demande qu'une seule chose, c'est soyez fan de vos joueurs. Mais vraiment quoi. Faites leur confiance. Leurs idées sont les bonnes idées. Et puis aussi après en dépassionnant la responsabilité, le poids d'être l'animateur. Il m'a affiché de ces deux secondes. Si ces gens veulent jouer avec vous, c'est qu'ils vous font confiance. Pourquoi vous seriez inquiet de les décevoir alors qu'eux sont déjà persuadés que ça va être super?
Je veux pas quoi dire de plus. C'est tellement.
Ouais. Et toute cette communauté de créateurs et les communautés qui les suivent dans leur création, elles sont animées par ça. Par une horizontalité et une bienveillance qui repose sur le fait qu'on avait envie de jouer ensemble. Donc, comment on fait pour que ça se passe le mieux possible? C'est pas en mettant tout sur l'épaule de l'animateur, c'est pas vrai, ça marche pas. Il n'y a aucune convivialité qui fonctionne comme ça. Quand je me réunis entre potes, je sais pas pour écouter un mec parler pendant des heures, tu vois. Enfin...
Non, mais complètement. Complètement. Romain, t'avais l'air d'avoir une dernière question.
Ouais, ben j'avais vu passer des trucs moi que Brindlewoolby a inspiré pas mal et il y a Rosewood Abbey qui est je vois qui est carved from Brindlewood. Ça veut dire que il y a des jeux qui sont adaptés maintenant qui sont des hacks de Brindlewoolby si je.
Ouais, c'est ça. Au niveau des règles. En fait, ouais, dans cette mouvance de jeu, les auteurs ils sont un peu dans le trip de se dire le cœur de notre dispositif si vous inspire. Un autre univers, un autre genre littéraire, allez-y quoi. Et puis ils baptisent, et ils font un petit logo pour officialiser un peu les choses, alors qu'en fait dans les faits, ils les lisent même pas, tu vois, puis ils donnent pas leur avis quoi. Et il y a eu celui-là, mais il y en a eu d'autres, il est tard, donc mémoire me fait défaut, mais et puis bah c'est pas, il est pas impossible qu'il y en ait d'autres, hein, parce que pour ceux qui ont lu le KSBI il y a quelques mois de ça, peut-être même plus d'une année maintenant, Cédric Ferrand, l'auteur de Wasburg, avait fait un cap from Brindlewood où dans l'ambiance du Nom de la Rose, tu vois, où il proposait de jouer des nonnes dans une abbaye française. Nous, on est en train de faire des expérimentations aussi sur d'autres univers. Mais comme on a d'autres accords avec Jason, je pense qu'il y aura d'autres jeux qu'a fait Jason qui vont arriver chez nous avant qu'on propose un dérivé de Brindlewood Bay.
Ok. Bon, c'était la question qui allait arriver. Quels sont les projets à venir après Brindlewood Bay?
Non, mais en fait, sur cette collection que je fais avec Nicolas Levif, je vais pas vous répondre parce que cette collection, je l'ai confiée à Nicolas. Il l'anime à travers sa communauté Discord et je lui laisse la primeur des annonces. Donc suivez la fabrique imaginaire. Non, ce que je peux vous dire, c'est que sur Force the Story, le prochain s'appelle Force the Band. Et vous jouez les Roadies, donc l'entourage d'un groupe de rock.
Ah, trop bien.
Pendant sa tournée mémorable.
Cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver les infos sur Brindlewood Bay et puis les gens qui gravitent autour?
Eh ben écoute, la page de la précommande Brindlewood Bay, elle est toujours en ligne sur Game on Tabletop. La précommande est fermée, mais cette page, elle se déploie comme un mini-site. Donc déjà, en lisant la page, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur Brindlewood Bay. En parcourant les news, vous aurez accès à quasiment toutes les règles du jeu, parce que finalement, cette page de précommande pour la France, eh ben c'est un peu notre HKN à nous, en fait, hein, voilà. Et puis là vous serez rerouté vers le Discord de la Fabrique Imaginaire animé par Nicolas Levif et puis vous verrez les sites des différents labels, donc forcethestory.fr, bravelongames.com et bientôt il y aura les éditions de la Fabrique Imaginaire. Pour le moment voilà, l'URL est déposée, on est en train de construire le site, donc ce sera pour l'année prochaine, mais déjà venez sur la page de la précommande. On la regarde, on répond aux gens, on vous oriente, et puis si vous regagnez le Discord de la Fabrique Imaginaire, vous serez accueilli par Nicolas et ses amis. Vous allez voir, c'est une communauté fantastique. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il y ait au moins une, si ce n'est deux, si ce n'est trois, si ce n'est huit parties en même temps le soir. Plus des discussions vraiment passionnantes de création, de partage de sensations sur ces jeux de nouvelle génération. Enfin voilà, c'est ce n'est pas un vain mot que de dire que c'est une communauté.
Merci beaucoup Sébastien. Juste avant que je te laisse à ta fin de soirée, tu vas juste faire une punchline pour inviter les gens à acheter Brindlewood Bay.
Voilà. Oh là, j'aurais fini pour ça. si, peut-être une chose qu'on n'a pas dit, c'est que l'obscur complot a une dimension ésotérique, mystique et fantastique. Donc, derrière ces crimes, il y a une intrigue. Dans le jeu de base, il y a plusieurs intrigues proposées pour pouvoir refaire des campagnes diverses. Et sachez que plus vous allez avancer, et plus le meneur de jeu va être armé d'arguments fantastiques, surnaturels. Et ça peut aller jusqu'à des créatures, des sortilèges. Et donc, ça peut même ressembler à un scénario de l'Appel d'Octoulou.
Eh ben, trop bien. Merci, Sébastien.
Ben non, merci à vous pour l'invitation.
Eh ben, une prochaine fois, sur un prochain projet, en tout cas.
Ah ben, super. Volontiers.
Allez, bonne soirée.
Ouais, ben, à bientôt. Moi, je suis pressé de recevoir mon pledge. Hein.
Ouais, ben, écoute, c'est dans un mois, maintenant.
Super. Impeccable. Merci chers auditeurs d'avoir été avec nous. On arrive sur la fin de l'émission. On aura sans doute un nouveau Rabbit Hole à parler la prochaine émission. Merci à toi Romain de m'avoir accompagné.
Est-ce que je peux annoncer deux dates là?
On n'aura pas le temps du tout. On va pas avoir le temps. On va se retrouver dans 15 jours pour parcourir et arpenter ensemble les voies du scénarium.